Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Qu'est-ce qu'une radio chrétienne? Un phare dans la nuit, disent certains, une présence presque réelle, disent d'autres, un lieu qui parle de la vie avec un petit V et un grand, une sorte de médecin généraliste aussi pourrait-on dire, puisque depuis quelques jours nous multiplions les conseils SPI pour votre été 2021. Ce matin, même posologie mais cap sur le sud-ouest, pour tous les amoureux de cette région, pour tous les chauvins qui ne voudront pas aller au-delà pour leur été, voire même pour les écolos qui seront attentifs à leur consommation de carburant. Petit florilège ce matin du cœur qui battra dans le sud-ouest cet été au rythme de Dieu. Cap Sud-Ouest pour un été SPI, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On va aller se promener dans notre belle région et dans différents diocèses. On essaiera de tous les honorer d'une manière ou d'une autre de la zone de diffusion de cette radio. On commence avec vous, Anne-Rose Jankovic. Vous êtes déléguée à la communication pour le diocèse de Tarbes et de Lourdes. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Merci d'avoir pris du temps pour ça, pour nous emmener chez vous. Alors chez vous, c'est donc les Hautes-Pyrénées. Déjà, si vous deviez un tout petit peu, alors vous ne travaillez pas pour l'Office du Tourisme, mais nous dire un peu à quoi ressemblent ces Hautes-Pyrénées, ce diocèse de Tarbes et de Lourdes.
Ah bah écoutez, c'est un coin formidable, merveilleux, splendide. C'est un coin tout près de l'Espagne, un coin incontournable. Alors si vous avez décidé d'aller en Espagne, arrêtez-vous donc dans les Hautes-Pyrénées d'abord. Voilà, dans cette terre bigourdane, cette terre de Sainte Bernadette, il y a beaucoup de choses à voir, aussi bien en montagne qu'en plaine ou qu'en ville. Vous ne serez pas déçus par les Hautes-Pyrénées.
Alors, on commence justement par Sainte Bernadette. Il y a donc là-bas le sanctuaire de Lourdes et il y a Bernadette, mais Bernadette n'a pas passé sa vie, j'allais dire, au sanctuaire. Le sanctuaire n'existait pas à l'époque. Bref, en tout cas, vous proposez dans votre diocèse donc un parcours sur les pas de Bernadette qui nous emmène dans les différents lieux de vie de cette sainte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous commencez par ça peut-être et puis ce que c'est?
Oui, alors d'abord parce qu'on associe évidemment Bernadette Soubirous à Lourdes, vous l'avez dit, mais effectivement son histoire, elle est vraiment inscrite dans le territoire de la Bigorre tout entière. Et le service archives et patrimoine du diocèse, après des mois et des mois d'enquêtes et de recherches, a établi en 2019 un parcours donc sur les pas de Bernadette qui retrace l'histoire de notre sainte locale en suivant un itinéraire bien particulier, en traversant des lieux que Bernadette a traversé elle-même, où elle a séjourné, ou bien auxquels elle s'est liée à distance. J'aime bien citer Pascal Castillo, qui est notre responsable du service archives et patrimoine dans notre diocèse, qui dit que pour comprendre la sainteté de Bernadette, il faut vraiment se rendre dans ces lieux, car ils parlent tous d'elle. Évidemment, il y a le sanctuaire, mais on ne peut pas tout découvrir de la personnalité de Bernadette en ne venant qu'au sanctuaire de Lourdes. C'est vraiment tous les lieux que je vais vous nommer rapidement tout à l'heure qui sont vraiment son identité, en fait.
Alors, le parcours, en l'occurrence, s'appelle donc « Sur les routes de Bigorre avec Bernadette ». Est-ce que vous pouvez vous arrêter donc peut-être sur les principales, enfin, nous dire les étapes de ce chemin et puis vous arrêter sur certaines, je pense entre autres à Barthès,
Barthès,
où Bernadette a passé un temps de sa vie.
Voilà, Barthès, tout près de Lourdes, hein. Bernadette y a été mise en nourrice en 1844, donc elle était tout bébé. Elle est revenue chez elle à Lourdes, au moulin de Bolly, en 1846. Mais en septembre 1857, les parents de Bernadette la renvoient chez sa nourrice à Barthès, parce que vous savez bien, c'était une famille vraiment pauvre, avec beaucoup de difficultés pour nourrir tous les petits. Et puis Bernadette avait de gros problèmes de santé. Il lui fallait prendre l'air et être bien nourrie. Donc elle s'en va, elle retourne chez sa nourrice à Barthès. Voilà, pendant quelques mois où elle a été la petite servante, comme l'aimait l'appeler sa nourrice, où elle s'est occupée des brebis. Elle a préparé sa première communion. Donc vous pouvez à Barthès visiter l'église Saint-Jean-Baptiste, hein, celle que connut Bernadette, dans laquelle elle a prié en préparant cette première communion. Et puis il y a également la bergerie. Alors vous empruntez un petit chemin. Alors c'est très facile à faire avec des enfants, hein, depuis depuis Bartrès, depuis le bourg du village jusqu'à la bergerie de Bernadette. Voilà, c'est un petit chemin très simple. Et là, vous êtes vraiment dans un petit écrin de verdure, un petit cocon. Et la présence de Bernadette qui est très forte, parce que vous ressentez vraiment ce qu'elle a pu ressentir en contemplant cette nature, en étant dans ce silence. Voilà, donc Bartrès, un lieu incontournable. Et puis, il y a un chemin pédestre hein, de Bartrès jusqu'à Lourdes, voilà, que vous pouvez faire également, qui est un peu plus long, mais qui est faisable en famille. Je vous donne un contact à Bartrès. Vous pouvez contacter les sœurs franciscaines missionnaires de Marie dans leur maison, la Pastourelle. Je vous donne le numéro de téléphone, 05 62 94 10 41, 05 62 94 10 41. Les sœurs vous guideront, voilà, elles vous feront tout découvrir de Bartrès. Donc, premier lieu incontournable, Bartrès.
Alors, si ça ne vous embête pas, on va pas déflorer le reste. Sur les routes de Bigorre avec Bernadette, c'était donc votre premier coup de zoom. On peut peut-être juste citer les lieux, donc Lourdes, Bartrès.
Arcisac-Aizangle.
Oui.
Arcisac-Aizangle, entre Lourdes, sur la route Lourdes-Bagnères, Momère, tout près de Tarbes. Argelès-Gazost et Cotteret. Argelès traversé par Bernadette pour se rendre à Cotteret au terme. Bagnères de Bigorre et Notre-Dame de Garaison, le sanctuaire de Garaison que vous connaissez bien, dont vous parlez régulièrement dans vos émissions, Emmanuel. Donc Bagnères de Bigorre et Notre-Dame de Garaison. Et puis évidemment, Tarbes et la cathédrale. Voilà. Voilà des lieux incontournables.
On peut finir par deux citations que vous mettez dans votre dossier de présentation donc sur les routes de Bigorre avec Bernadette, que certainement peut-être les auditeurs se pourront se procurer d'une manière ou d'une autre. « Je ne vivrai pas un instant que je le passe en aimant », ça c'est de Bernadette, « et elle me regardait comme une personne regarde une autre personne », ça c'est aussi de Bernadette, à propos donc de la Vierge Marie. Alors la deuxième chose, c'est que vous vouliez nous attirer notre attention sur, on va dire, le patrimoine religieux qui va essayer de vivre particulièrement à l'occasion de l'été. Voilà, on sait que dans votre diocèse aussi, vous avez été attentif à la restauration des croix dans les différents villages, au coin des chemins. On en avait parlé, je crois. Là, ce sont toutes les églises qui essayent quoi, d'être ouvertes en fait, dans votre diocèse pendant tout l'été.
Exactement. Alors là, je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau à tous les chrétiens dans les Hautes-Pyrénées qui se mobilisent pour ouvrir leurs églises chaque jour, en particulier pendant l'été. Alors, ça paraît rien, mais vous savez, c'est quand même pas une mince affaire tous les matins de veiller à ouvrir l'église, ne pas oublier d'aller la refermer le soir en regardant si tout va bien, être là pour répondre aux questions éventuelles des passants, des touristes, des vacanciers. Voilà, donc les chrétiens de Bigorre se mobilisent vraiment pour ouvrir leurs églises. Je voudrais faire un petit coup de zoom sur l'ensemble paroissial Argelès-Saint-Savin, où le père Dorothée Amaozou et toutes ces équipes de bénévoles vraiment s'organisent dans tout l'ensemble paroissial pour que quotidiennement il y ait quelque chose à voir, à dire, à faire dans les églises. Voilà, alors vous avez à l'entrée de l'église d'Argelès un tableau qui vous guide et vous indique le circuit le plus simple à parcourir pour pouvoir passer d'église en église. Et partout, vous trouverez la porte ouverte. Et ça, vraiment, on y tient en Bigorre, que nos petites églises, même les petites chapelles, soient ouvertes pour que les personnes qui passent puissent y arrêter un instant. Vous savez, on ne sait jamais ce qui peut se passer en s'arrêtant quelques instants dans une petite église.
Vous vouliez aussi attirer notre attention sur le Pays Toy. Peut-être vous pouvez présenter d'abord le Pays Toy, je ne sais pas si je le prononce correctement, où est-ce ?
Vous le prononcez très bien, le Pays Toy. Alors là, il vous faut prendre un petit peu de hauteur. Hein. Vous passez par Argelès-Gazost et hop, vous montez direction Luce. Et là, le père Claude Lesgourg, qui est encore jusqu'à la fin de l'été à Luce et qui va quitter Luce pour se retirer à Bagnères. Alors, il est encore là cet été. Et il vous propose, comme chaque année, une série de rendez-vous, des concerts, des visites d'églises de montagne, des messes en plein air. Il y a toujours un trésor architectural et spirituel à découvrir en Pays Toy. Je voudrais vous citer juste une visite nocturne de l'église des Templiers à Luce Saint-Sauveur, donc par le curé de Luce, par le père Claude Lesgourg. C'est ce soir à 21h. Voilà, donc cette visite d'église nocturne. Et puis le dimanche 15 août, il y aura une messe en plein air voilà, à Barèges pour la fête des guides de montagne. Donc voilà, ça c'est des rendez-vous incontournables.
Alors Anne Rojankovic, pardon de vous couper, mais j'ai vu qu'il y avait un musée des trésors aussi, musée trésor à l'église de Luce Saint-Sauveur. Qu'est-ce que c'est que ce musée ?
le musée trésor de l'église de Luz-Saint-Sauveur. Alors ça, c'est un musée où vous pourrez, enfin c'est dans l'église, où vous pouvez voir toutes les pièces historiques de cette église des Templiers. C'est ouvert tous les jours du début du mois de juin, donc ça fait déjà un mois, jusqu'au début du mois d'octobre, de 16h à 18h30. Vous pouvez y aller. Le père Claude Lesgourgues est là, avec des bénévoles aussi qui sont là pour vous expliquer, pour vous transmettre l'histoire. Voilà. Toutes les dates des visites, des rendez-vous, des concerts sont visibles, hein, sont accessibles sur le site du diocèse et puis sur des petits dépliants qui sont disponibles un peu partout dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Voilà.
Et des concerts, il y en a dans ces églises dont un certain nombre, vous me l'avez notifié, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, en tout cas des zones classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous vouliez finir par des sanctuaires ou on va dire des hauts lieux spirituels autres que Lourdes. Il ne s'agit pas de snober Lourdes, mais de montrer
non,
que,
on ne boude pas Lourdes,
voilà,
non.
Il y a plein d'autres belles choses à voir dans ce beau pays. Des sanctuaires, il y en a, j'en ai découvert à cette occasion. Je ne sais pas combien vous en répertoriez. De sanctuaires, il me semble qu'on pouvait voir quelque chose. Le Bigorre Terre Mariale, c'est ça, hein?
Exactement, la Bigorre est une terre mariale. Et bien, il suffit de... Alors, vous pouvez démarrer depuis le sanctuaire de Lourdes, hein, parce que, comme vous le dites, on ne boude pas le sanctuaire de Lourdes. Mais depuis Lourdes, après, promenez-vous, rentrez dans les terres bigourdanes. Vous pouvez, par exemple, aller à Notre-Dame de Poylain. Alors, ça se trouve dans le Val d'Azun, à 930 mètres d'altitude, près du village d'Arins. Moi, je vais vous donner deux occasions de vous y rendre dans ce petit sanctuaire. Le dimanche 25 juillet, donc troisième dimanche de juillet, les paroissiens, autour de leur curé, le père Gustave Zarabé, célèbrent Sainte-Anne, la mère de la Sainte Vierge. Vous avez rendez-vous à l'église de Marsous à 9h ce jour-là, ce dimanche 25 juillet. Et puis là, il y aura une journée de pèlerinage avec une messe à 10h30, mais il y aura aussi la bénédiction de la statue du Christ-Roi qui vient juste d'être restaurée. Enfin voilà, donc dimanche 25 juillet, l'occasion de découvrir le sanctuaire Notre-Dame de Poylain et sa chapelle toute dorée. Et puis si vous loupez ce coche-là, ben, vous pouvez toujours y retourner le dimanche 15 août. En l'église d'Aucun à 8h. Là, c'est le début d'une journée de pèlerinage pour célébrer l'Assomption de la Sainte Vierge. Voilà, Notre-Dame de Poylain, un de nos nombreux sanctuaires dédiés à la Vierge Marie.
Alors moi, je voulais que vous arrêtiez sur Notre-Dame des As. J'ai un petit faible pour ce sanctuaire, c'est peut-être parce que je ne connais pas bien les autres, qui est non loin du cirque de Gavarnie, dans le cirque d'Estobé, si je ne me trompe pas, non?
Vous connaissez bien notre terre bigourdane, Emmanuel. Exactement. Alors, Notre-Dame des As, les histoires entre Notre-Dame de Poylain et Notre-Dame des As sont assez liées. Alors, j'ai trop peu de temps pour vous les expliquer, mais on pourrait dire qu'elles sont sœurs l'une et l'autre. Notre-Dame des As, alors, il faut prendre un peu plus de hauteur. Hein. Là, c'est à 1550 mètres d'altitude, au pied du cirque de Troumouz, au fond de la vallée,
voilà,
de Barège.
À la frontière,
voilà,
de l'Espagne, presque. C'est...
Exactement, exactement. Alors là, vous êtes aussi accueillis depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Vous êtes accueillis par le père Fréchoux, qui est au presbytère, juste à côté de cette église qui est assez, assez typique.
Dans un tout petit hameau, il faut le dire. Hein. Je ne sais pas combien il y a d'habitants,
oui,
mais enfin,
c'est
il doit
petit,
y en avoir 3 ou 4.
Alors, oui. Oui, exactement. Dans les meilleurs jours de l'année, il y en a peut-être 4. Mais cela dit, il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui passe l'été. C'est un lieu vraiment essentiel pour comprendre finalement la vie des bergers et aussi leur foi. Vous savez que cette église, Notre-Dame des As, elle a vraiment subi des avalanches, des incendies. Elle a été détruite, reconstruite. Elle est pour moi le signe d'une volonté vraiment des Bigourdans de se confier à la Vierge Marie. Si elle est là, cette chapelle, c'est parce qu'il y a des bergers, des hommes qui ont cru, qui ont voulu absolument reconstruire malgré tout un lieu pour prier, pour se ressourcer et pour se confier à la Vierge Marie. Cette chapelle, elle dit beaucoup du caractère bigourdan, voilà, de la détermination des bigourdans.
Eh bien, merci, Anne-Rose Jankovic. Quoique, vous vouliez aussi attirer notre attention donc sur Notre-Dame de Garaison, ça, on en a parlé. Donc, c'est le premier lieu d'apparition mariale, en tout cas reconnu en France. On en parle assez souvent, cette antenne. Saint-Pé de Bigorre. Et puis, l'abbaye de Tournai, peut-être, qui est moins connue, abbaye bénédictine, pour finir.
Alors, les moines bénédictins à Tournai vous accueillent tous les jours, quand vous voulez, pour prier avec eux, pour discuter. C'est un lieu paisible sur les bords de la rivière de la Rosse. Donc l'abbaye est vraiment collée au village, à la ville de Tournai. C'est un lieu vraiment pour se reposer, pour reposer votre âme, votre esprit, votre cœur. Si vous avez besoin de faire un break, quelques heures ou quelques jours de silence, de prière, vraiment l'abbaye de Tournai, c'est le bon endroit pour ça. C'est pas très loin de Toulouse, c'est assez central dans notre région, donc n'hésitez pas, vraiment, les moines bénédictins sont vraiment là, disponibles, à l'écoute des personnes qui passent, et vous serez vraiment réconfortés par ce temps. Puis alors vous pourrez aussi déguster leurs pâtes de fruits, leurs célèbres pâtes de fruits, que les moines bénédictins fabriquent. Donc abbaye de Tournai, un lieu de repos et de ressourcement pour votre été.
Eh ben merci beaucoup Anne Rojankovic d'avoir ouvert le bal en nous parlant du diocèse de Tarbes et Lourdes et des Hautes-Pyrénées. Comme on n'aura pas le temps, puisque l'émission ne dure qu'une heure, d'honorer tous les diocèses, un tout petit mot d'un diocèse voisin, c'est le diocèse de Pamiers. 2-3 rendez-vous pendant l'été, du 5 au 9 juillet, c'est un pèlerinage VTT, une marche vers Lourdes sur les chemins de Saint-Jacques entre le 8 et le 16 août pour les 18 ans et plus. Et enfin, le pèlerinage diocésain à Lourdes, ça sera du 16 au 19 août. Tout ça retrouvé aussi sur le site du diocèse de Pamiers. Diocèse de Pamiers et diocèse de Tarbes et Lourdes. On fait une première pause et puis on va retrouver le diocèse de Rodez. Et on parlera à la fin un tout petit peu d'Auch et de Montauban.
Emmanuel Pella.
Cap Sud-Ouest pour un été spi, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On essaye, comme à de nombreuses reprises ces derniers jours, de vous donner le plus d'éléments possible pour agrémenter votre été. Et dans cette deuxième partie, donc, on va aller du côté du diocèse de Rodez et de Vabres avec vous, Pascal Fournier. Vous êtes délégué épiscopal à l'information pour ce diocèse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous nos auditeurs de la grande zone d'écoute Radio Présence.
Merci d'avoir répondu présent pour cette promenade, on va dire, dans une partie de l'Occitanie. Alors, le diocèse de Rodez et de Vabbes, c'est un tout autre paysage, on va dire, que les Hautes-Pyrénées, mais un beau pays et bien varié s'il en est. Peut-être qu'on le découvrira au long de votre intervention. Vous, la première réalité pour cet été sur laquelle vous vouliez attirer notre attention, c'était l'ouverture de l'année Jacquaire. Alors, cette année Jacquaire, sauf erreur de ma part, a commencé le 31 décembre 2020. Peut-être faut-il commencer par ce qu'elle fournit, par repréciser ce qu'est une année Jacquaire.
Absolument, vous avez absolument raison, Emmanuel, de préciser que cette année s'est ouverte le 31 décembre de l'année précédente. Alors, une année Jacquaire ou une année sainte Saint-Jacques survient chaque fois que la fête de l'apôtre Jacques tombe un dimanche. On fête Saint-Jacques tous les ans le 25 juillet. Mais quand ça tombe un dimanche, eh bien, on décrète une année sainte Saint-Jacques et ça arrive 4 fois dans une période de 28 ans. Donc, c'est le cas en 2021. Et exceptionnellement, cette année, le pape François a annoncé que 2022 serait aussi une année sainte, une année Jacquaire, à cause de la pandémie qui nous restreint un petit peu, peut-être, dans nos déplacements et nos rassemblements.
Alors, qu'est-ce que ça a comme incidence, peut-être une année jubilaire? On peut le préciser, non seulement, on va dire, on essaie de faire en sorte que Saint-Jacques de Compostelle soit à l'honneur, mais c'est aussi l'occasion d'obtenir une indulgence plénière, c'est ça?
Tout à fait. Alors, ça c'est l'Église, on peut dire des choses comme ça, a promis le pardon à tous les pécheurs qui feraient le pèlerinage jusqu'à la tombe de l'apôtre Jacques au cours de l'année sainte. Donc c'est ce qu'on appelle gagner le jubilé. Alors vous savez, Emmanuel, que le chemin de Saint-Jacques traverse quasiment toute notre région Occitanie à travers ses différentes routes, que ce soit celle du Puy-en-Velay, celle de Tours, de Vézelay, d'Arles. Et dans notre ancienne région Midi-Pyrénées, eh bien, le chemin, je crois, traverse quasiment tous les diocèses. Dans l'Aveyron, c'est le GR65, une grande partie de ce chemin qui traverse notre diocèse. Et chaque année, ce sont plus de 300 000 pèlerins, marcheurs, qui font ce chemin. Une grande partie traverse évidemment l'Aveyron et s'arrête dans nos lieux d'étape, que ce soit les sanctuaires, je peux citer Conques, mais il y en aurait d'autres, ou que ce soit toutes les haltes, les églises du chemin de Saint-Jacques.
Alors, quelle est l'actualité, on va dire, plus particulière pour le diocèse de Rodez et de Vabres, en dehors du fait qu'il va falloir accueillir ces pèlerins et puis contribuer à faire vivre cette année jubilaire sur les portions du chemin qui traverse votre diocèse? Il y a un rendez-vous, je crois, le 25 juillet prochain.
Le 25 juillet, qui est le jour de la fête de Saint-Jacques. Alors, la porte sainte, entre guillemets, à la cathédrale de Saint-Jacques en Espagne s'est ouverte donc le 31 décembre. Elle restera ouverte pendant toutes les deux années jubilaires. Ici, dans l'Aveyron, nous allons marquer plus particulièrement cette année sainte le 25 juillet. Il y aura, par exemple, à Villefranche de Rouergue, une rando pèlerinage, dimanche 25 juillet. Et puis, dans une paroisse qui s'appelle Saint-Jacques d'Ourdou et d'Az, le Dourdou étant une des rivières qui traverse cette paroisse, va être marquée plus particulièrement l'année sainte. Alors, elle devait l'être par Mgr Fonlu qui présidait cette journée. Vous savez, Emmanuel, nos auditeurs savent que Mgr Fonlu est nommé en Avignon et qui sera installé la semaine prochaine. Donc, il ne présidera pas cette journée, mais elle aura lieu, bien entendu, dimanche 25 juillet, donc une messe solennelle. Et la particularité, elle sera dans une petite église du village de Sénergue, mais cette messe sera précédée d'un pèlerinage qui va durer 3 jours, du 22 au 25 juillet, qui va rassembler les pèlerins au départ de plusieurs lieux. Il y aura un départ de Cap-de-Nac, un départ du village de Lunel, un départ du village de Ruille, etc. Ces pèlerins, pendant 3 jours, vont cheminer, vont converger vers Sénergue et puis Conques, où auront lieu les vêpres solennelles. Donc ça, c'est le dimanche 25 juillet.
Voilà, Conques, où on était donc pour le Triduum Pascal, lieu splendide s'il en est, ça suffit, on va dire, pour, pour aller dans votre diocèse et aller visiter ce lieu, cette magnifique abbatiale romane, donc sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. On pouvait lire aussi qu'à l'occasion de l'ouverture de l'année jacquaire, preuve que votre diocèse y est bien attentif, des pèlerins en communion ont marché sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans votre diocèse pour signifier, on va dire, qu'ils étaient particulièrement présents à cet événement. Vous vouliez attirer notre attention sur deux autres actualités ou, on va dire, rendez-vous spirituels de l'été auxquels tout à chacun peut se joindre. Une école de prière et puis à la fin, on parlera des fraternités monastiques de Jérusalem qui viennent prendre un temps de repos sur le plateau de l'Aubrac. L'école de prière, c'est du 15 au 19 août. Qu'est-ce que c'est qu'une école de prière? Est-ce qu'on peut tous venir, pas seulement si on est du pays?
Alors, on peut aller évidemment sur les chemins de Saint-Jacques, quel que soit notre âge. L'école de prière, quant à elle, elle est réservée aux jeunes, aux enfants et aux jeunes de 7 à 15 ans, qui sont répartis en tranches d'âge. C'est l'occasion de réunir ces jeunes au cœur de l'été, au cœur d'une vie pastorale qui est peut-être au ralenti, puisque les équipes de caté, les équipes d'aumônerie reprendront qu'en septembre. Mais voilà, réunir ces jeunes autour et avec des animateurs, autour et avec des religieux, des prêtres, voilà, pour vivre une expérience spirituelle, fraternelle et à la fois humaine et ludique. Donc cette école de prière.
Et on vient de loin, hein, je crois. C'est en tout cas pour continuer de peut-être de répondre à ma question. En fait, évidemment, il n'y a pas que des gens du diocèse qui viennent à cette école de prière.
Il n'y a pas que des jeunes du diocèse, effectivement, sont concernés des enfants et des jeunes qui vivent ici dans l'Aveyron, qui sont dans les divers territoires, mais il y a aussi des jeunes qui viennent de la région parisienne, de Toulouse, d'ailleurs, tout simplement parce que ces jeunes-là sont en vacances dans l'Aveyron, chez des grands-parents, dans la famille, et que souvent ce sont les grands-parents qui, par tradition, par transmission, offrent cette possibilité à leurs petits-enfants de vivre ce temps avec d'autres, qu'ils ne connaissent pas forcément, mais dont ils vont faire connaissance.
Mais donc, rappelez la tranche d'âge, et puis on y apprend quoi en fait? On y apprend à prier, tout simplement?
La tranche d'âge, c'est donc pour les 7-15 ans. On y apprend à prier. On pourrait parler presque on pourrait détailler à nos auditeurs une journée type, mais ils la retrouveront plutôt sur le site web qui est dédié à cela, hein, École de prière en Aveyron. Donc on y apprend à prier, on y apprend à vivre ensemble, à jouer ensemble, à se connaître alors qu'on vient d'horizons divers. On peut y apprendre aussi la mission de servant d'hôtel. Tous les jours, un temps est réservé pour ceux qui veulent se préparer à servir la messe. On y apprend à vivre la messe aussi. Une messe quotidienne. Et quand je posais la question à certains, mais ce n'est pas trop lourd, une messe tous les jours, un d'entre eux me répondait, mais non, c'est ludique et passionnant. Vécu comme ça, c'est ludique et passionnant. Donc on y apprend à prier, à jouer, on y apprend à gérer son temps, on y apprend à gérer ses relations, on y apprend tout un tas de choses qui servent dans notre vie, qui serviront à ces jeunes dans leur vie de non seulement de chrétiens, mais d'hommes et de femmes, et j'oserais dire parfois aussi de citoyens.
C'est donc du 15 au 19 août, et c'est donc c'est à Rodez.
C'est à Rodez cette année, avec des prêtres, des laïcs et des religieux qui accompagnent ces jeunes au quotidien.
Alors, dernière actualité de votre diocèse, auquel on peut se joindre cet été, actualité spirituelle. Vous vouliez attirer notre attention donc sur les fraternités monastiques de Jérusalem, qui sont donc présentes dans différents lieux en France, entre autres à Paris, au Mont-Saint-Michel et à Vézelay, et qui prennent leur quartier d'été donc sur le plateau de l'Aubrac, familiers qu'ils sont un certain goût du désert. Qu'est-ce qu'on peut vivre avec eux? Est-ce qu'on peut les rencontrer, ou est-ce que dans le fond ils cherchent à se cacher et à être tranquilles?
Alors, il faut peut-être, pour répondre à votre question, Emmanuel, rappeler ce que sont les fraternités monastiques de Jérusalem, au cœur des villes, au cœur du monde, avec le désir de prière. Et quand on a dit ça, on a finalement tout dit. Ils cherchent effectivement, sur l'Aubrac, par rapport à ces villes dans lesquelles ils vivent et dans lesquelles ils sont en mission, ils cherchent sur l'Aubrac un coin de désert, un peu comme leur fondateur, le père Pierre-Marie Delfieux, qui était allé se retirer au désert sur les pas de Charles de Foucault pour mûrir un petit peu, c'était dans les années 1972-74, donc il était allé au désert pour mûrir son projet de fondation d'une communauté religieuse à la demande du cardinal Marty. Donc il cherche à la fois à aller au désert, mais il cherche aussi ses frères et ses sœurs, ses moines et ses moniales de Jérusalem, à être au contact de la population. Cette population d'Aveyron, qui est la terre natale de leur père fondateur, mais aussi à la rencontre des pèlerins, des touristes, des personnes de passage sur l'Aubrac, et ils sont nombreux, ceux qui passent sur l'Aubrac l'été. Alors les frères et sœurs de Jérusalem, venus de Cologne, d'Italie, de Montréal, de Paris, etc., sont installés pendant à peu près 3 à 4 semaines sur l'Aubrac, où ils ont une mission double. Ils s'engagent à vivre de manière pauvre comme ils le font habituellement et à travailler, non pas dans les entreprises ou les associations dans lesquelles ils sont investis dans leur ville de résidence, mais à travailler à la restauration des burons. Vous savez, Emmanuel, ces petites maisons, ces petites bâtisses qui servaient pour garder les troupeaux en estive sur l'Aubrac.
Et qui aujourd'hui sont très prisés. J'ai même entendu dire que Zinedine Zidane cherchait un buron, qu'il n'en trouvait pas.
Grand Dieu. Ils sont très prisés parce que on y sert encore et toujours de bons aligots, parce que certains ont été restaurés pour en faire des lieux de vacances, soit de comme des petites résidences secondaires, soit des lieux de location, hein, des gîtes. Isabelle O'Neill en avait mis un en lumière du côté de Saint-Chély-d'Aubrac il y a quelques semaines. Donc ils sont très prisés, mais ils sont aussi de plus en plus délaissés pour leur vocation originelle, qui est l'élevage, qui est la traite, qui est la fabrication du fromage. Et donc quand ils sont délaissés, ils tombent en ruine. Donc depuis plusieurs années, les frères et sœurs de Jérusalem, parce qu'il y a des contacts, parce qu'il y a des attachements avec la terre natale de Ferrer Pierre-Marie Delfieux, viennent sur l'Aubrac pour remonter ces burons. Et puis, ils animent aussi...
Alors voilà, les rendez-vous spirituels, ils sont donc particulièrement donc, à la Domerie d'Aubrac. Aubrac, c'est donc, on va dire, le village un peu historique, hein, en tout cas qui porte le nom de ce plateau. Qu'est-ce qu'ils y proposent dans cette Domerie, qui est donc une église romane, si je ne me trompe pas?
Absolument. Ils y proposent donc une liturgie, leur liturgie, tous les dimanches 1er, 8 et 15 août à 11h, 1er, 8 et 15 août à 11h à la Domerie d'Aubrac. Donc c'est une messe, une très très belle liturgie animée par ses frères et sœurs de Jérusalem. Et puis la veille du 15 août, ça c'est le samedi 14 août à 20h, ils invitent aussi à une vigile de l'Assomption. Alors qui propose cette année, c'est un petit peu réduit en raison de la pandémie. Beaucoup d'entre eux, notamment ceux qui sont à l'étranger, ne peuvent pas venir en France. Donc, habituellement, ils proposent des marches, des pique-niques, des randos spirituels. Cette année, leurs invitations se limiteront à ces dimanches 1er, 8 et 15 août et aux vigiles de l'Assomption. Ils restent néanmoins accessibles, visibles un peu partout sur le plateau parce qu'ils travaillent dans les burons, parce qu'ils marchent, parce qu'ils se promènent et les pèlerins, les visiteurs, les touristes, les Aveyronnais peuvent aller les rencontrer à tout moment pour un temps de partage, pour une confession, pour un temps d'interrogation sur son propre chemin de vie. Voilà, donc ils sont très très accueillants, tout comme les, je l'espère, notre terre d'Aveyron.
Et on les reconnaîtra, puisque, sauf erreur de ma part, ils sont habillés en bleu, et que sur le plateau de l'Aubrac, on y voit surtout du vert, et puis la belle robe... La belle robe brune des vaches du plateau de l'Aubrac.
Leur maquillage autour des yeux.
Merci Pascal Fournier de nous avoir fait ce tour d'horizon rapide donc pour le diocèse de Rodez et de Vabre et pour ce beau pays qui est donc l'Aveyron. En pied de votre intervention, donc on peut dire un mot aussi pour le diocèse d'Auch et de Montauban. Diocèse d'Auch, il s'y passe des choses aussi. PLVTT, c'est autour du 10 et du 14 juillet. À l'occasion de l'année Jacquère aussi, un rendez-vous est proposé le 25 juillet à Marcillac avec les scouts de France, les SUF et les Scouts d'Europe et puis un camp pour les jeunes à Aurélian. Ça sera au 17 août. Et puis pour le diocèse de Montauban, peut-être un rendez-vous ou moins, c'est les Baladins de l'Évangile qu'on invite de temps en temps dans cette émission autour donc de leur fondateur qui est un peu une figure, un prêtre qui essaye de faire rentrer, on va dire, dans l'Évangile par le théâtre. C'est une expérience qu'il propose à l'occasion donc de ces Baladins de l'Évangile. Ça sera du 10 au 13 juillet. Toutes les informations et détails à retrouver sur les sites de vos différents diocèses. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va retrouver pour finir Jeanne-Françoise Catala de Beaucor. C'est pour le diocèse d'Albi et on dira un petit mot du diocèse et des rendez-vous du diocèse de Toulouse.
Radio Présence à Pamiers, 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cap Sud-Ouest pour un été spice et pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On essaye donc de vous donner des billes pour un été spirituel dans le Sud-Ouest. Voilà, on va dire c'est glocal, c'est-à-dire local, nourrissant, global et puis écolo, j'ai envie de dire. Avec vous, Jeanne-Françoise Catala de Beaucor, vous êtes déléguée épiscopale à l'information pour le diocèse d'Albi. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Voilà, avec vous donc on va aller dans ce diocèse ou ce beau pays du Tarn qui cette fois donc est situé à l'est de Toulouse. Alors différentes choses. Déjà votre pays quand même est très différent, on va dire des Hautes-Pyrénées, de l'Aveyron. Si vous deviez nous faire un peu l'article pour votre département, pourquoi est-ce qu'il faut y venir pendant l'été?
Oh, il y a beaucoup de richesses. C'est vrai qu'on est aux confins de différentes zones géographiques. À l'est du Tarn, on est sur les contreforts de la Montagne Noire. Au nord, on est déjà dans les gorges de l'Aveyron. À l'ouest, le pays des Bastilles et des vignobles est beaucoup plus vallonné. Donc voilà, il y a différentes géographies, différentes activités qui s'y relient aussi. Et puis un patrimoine assez varié.
Un patrimoine assez varié, on va en découvrir peut-être quelques-uns de ces aspects, particulièrement la cathédrale d'Albi. Alors la première chose sur laquelle vous vouliez attirer notre attention, allez, on va pas faire dans l'ordre prévu, justement, on va parler de la semaine cathédrale à Albi, comme ça vous allez pouvoir nous dire un petit mot de cette belle cathédrale, si vous deviez nous la présenter avant de parler de cette semaine cathédrale.
Alors, la cathédrale Sainte-Cécile, c'est une forteresse. Ça a vraiment été conçu comme ça par les architectes qui l'ont construit. Ça a été commandé comme ça par l'évêque de l'époque au XIVe siècle. Donc c'est du gothique méridional. Un extérieur de forteresse et un intérieur tellement enrichi par les fresques, par un jubé, par toute une statuaire et puis par des créations plus contemporaines. Je pense en particulier au tabernacle qui a été installé il y a 5 ans. Qui est une colombe eucharistique, c'est-à-dire que c'est un tabernacle suspendu en forme de colombe qui contient le Saint-Sacrement. Donc voilà, les arts continuent à être au service de la beauté et continuent à nous révéler quelque chose de Dieu dans cette cathédrale Sainte-Cécile. Et c'est vraiment ce lien avec l'art et avec la beauté qui a conduit...
À cette semaine cathédrale, en fait, c'est quoi? C'est une semaine artistique? Alors c'est une semaine, c'est plutôt 3 jours, hein? Mais c'est...
Alors cette année, voilà, elle a un format réduit cette année. D'habitude, c'est une semaine complète. En raison des conditions sanitaires, il n'a été possible que d'organiser 3 jours, mais beaucoup plus dense. Donc c'est un festival d'art sacré, en quelque sorte, pendant 3 jours, du 11 au 13 août cette année, juste avant la fête de l'Assomption.
Alors qu'est-ce qu'on va y vivre? On peut y voir... un certain nombre d'auteurs connus dont les textes seront lus en ce lieu, Michael Lonsdale, Christian Bobin, même des extraits de la Divine Comédie. Dites-nous un peu, c'est quoi? C'est une succession en fait de spectacles et lectures de textes?
Il y a une succession effectivement de pièces de théâtre, de grandes lectures, le tout très souvent accompagné à l'orgue par Frédéric Deschamps, qui est l'organiste titulaire de la cathédrale. Il y a des créations qui parfois sont très originales et amusantes, d'autres beaucoup plus profondes et sérieuses. Par exemple dans le drame total, il y a une adaptation du dialogue des Carmélites qui sera donnée le vendredi 13 août à 20h45 dans la cathédrale Sainte-Cécile. Donc une adaptation de cet opéra avec le texte de Claudel, et puis de façon plus légère, 1000 diableries vers Compostelle avec Emmanuel Chanal. Et donc ça, c'est une pièce de théâtre qui se jouera sur le parvis de la cathédrale, donc vraiment avec un lien avec la cité, avec l'extérieur et une ouverture sur la ville d'Albi.
Ça, c'était votre premier coup de zoom. C'est donc la semaine cathédrale, c'est du 11 au 13 août, donc on l'a bien compris, dans votre, on va dire, la capitale du Tarn. L'autre événement sur lequel vous vouliez attirer notre attention, qui peut nourrir notre été et lui donner, on va dire, une saveur spirituelle, c'est une session diocésaine qui a lieu du 9, 10, le 9, 10 et 11 juillet. Alors je me suis dit, en fait, session diocésaine, ça ne s'adresse pas d'abord... à ceux qui sont de chez vous?
C'est organisé par des gens qui sont de chez nous, mais c'est ouvert largement à tous, en particulier ceux qui viennent du sud-ouest. Il s'agit, en fait, l'été dernier, dans le contexte sanitaire, nous avons souhaité créer une session locale parce que beaucoup de familles ne pouvaient pas forcément participer à des sessions, que ce soit à Paray-le-Monial ou à Lourdes. Les déplacements pouvaient être plus compliqués. Et puis devant le succès de la session l'année dernière, une deuxième édition est proposée cette année. Elle aura lieu donc du 9 au 11 juillet dans le sud du Tarn, à Dourgne, juste en face entre l'abbaye Sainte-Scolastique et puis l'abbaye d'Encalcate. C'est vraiment, on est sur le territoire des moines et des moniales, en relation avec eux.
Qu'est-ce qu'on y vivra? Vous y mettez en exergue une parole, une parole de Jésus: « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos ».
Alors, c'est vrai que cette citation est très longue, et donc elle sera déployée au cours des jours. D'abord avec une soirée de louanges le vendredi soir. Il y aura également des enseignements de différents prêtres du Tarn, de l'abbaye, de notre évêque, Monseigneur Jean Legret. Donc beaucoup de temps de louanges en après-midi sur le thème de la miséricorde, avec en particulier le témoignage d'un ancien dealer drogué, converti au Seigneur Jésus et qui aujourd'hui témoigne de la joie et de la paix qui lui a été apportée par sa conversion. Il y aura en lien avec cela un enseignement sur la miséricorde. Et puis le soir, une soirée d'effusion de l'Esprit Saint, donc le samedi soir. Le dimanche, l'Eucharistie sera présidée par notre évêque. Et puis dans l'après-midi, il y aura une randonnée, un temps de marche vers la Capellette. La Capellette, c'est une toute petite chapelle qui est située sur le désert de Saint-Féréol, au-dessus de l'abbaye d'Ancalcap. Donc on a une vue magnifique sur toute la vallée. Et donc c'est de là-haut que l'évêque bénira et enverra en mission, c'est plus joli comme ça, l'ensemble des participants à la session.
Alors, il ne s'agit pas de starifier d'une quelconque manière, en fait, ce rassemblement auquel vous proposez de participer, mais est-ce que vous pouvez dire un mot peut-être aussi de la présence du père Roger Paulin, qui dit aussi peut-être sa couleur charismatique?
Oui, alors je pense que donc il y a effectivement le père Roger Paulin qui est prêtre dans notre diocèse, qui est très engagé dans les mouvements charismatiques et les mouvements œcuméniques aussi, en lien avec d'autres églises chrétiennes. Mais il y a beaucoup de sensibilités qui sont représentées pendant cette session. Il y a des membres de la communion Priscille et Aquila, des membres de la communauté de l'Emmanuel. Il y aura l'école Jeunesse Lumière et du père Daniel Ange qui sera là. Voilà, beaucoup de les moines d'Ancalcat qui, eux, ont une autre couleur aussi. Mais effectivement, la dimension charismatique sera marquée par la présence d'un certain nombre de prêtres, dont le père Roger Paulin, et puis par cette dimension de la louange.
Ça, c'est donc du 9 au 11 juillet, 3 jours, une session diocésaine, on l'a compris, c'est une espèce de parérémonial miniature pour faire court et très, très bref.
Et local.
Et local, voilà. Plus besoin de traverser la France pour vivre un moment fort, seul ou en famille, et être restauré, ragaillardi dans sa foi. Le dernier événement sur lequel vous vouliez attirer notre attention, que vous proposez donc dans le Tarn, c'est une pospi qui s'adresse donc aux personnes mariées, prêtres religieux, célibataires, bref, à tout le monde, si j'ai bien compris. Pospi, c'est du 18 au 22 août.
Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, ça s'adresse à tous les jeunes de 15 à 25 ans.
Ah, d'accord.
Quel que soit leur appel. Qu'ils soient appelés à se marier, à devenir prêtre, religieuse, religieuse ou célibataire. Voilà. C'est pour savoir où Dieu appelle. C'est le service des vocations de notre diocèse qui propose cela, avec vraiment un éclairage de la parole de Dieu, avec la prière des moines et des moniales d'Ancalcat et de Sainte Scolastique, des temps de vie fraternelle, de promenade, mais c'est effectivement ouvert à toutes les vocations. Le service des vocations n'est pas d'abord là pour faire du recrutement, il est là pour prier pour que les jeunes, aujourd'hui, puissent répondre à l'appel du Seigneur, que ce soit un appel spécifique à la vie consacrée, au fait de devenir prêtre. Mais voilà, donc ces quelques jours, du 18 au 22 août, permettent de se poser à la fin de l'été, avant de redémarrer une année aussi pour beaucoup, en particulier pour les étudiants. Donc voilà, une pause spirituelle pour savoir où Dieu m'appelle, en particulier à la lumière de la parole de Dieu.
Voilà, donc pause spirituelle, c'est du 18 au 22 août. Comment savoir où Dieu m'appelle? Point d'interrogation, c'est le titre donc que vous proposez, et ça sera donc aussi au monastère d'Ancalcat, cette abbaye bénédictine qui est située dans votre diocèse. À la fin de cette émission, comment ne pas parler un petit peu du diocèse de Toulouse, le diocèse de Toulouse, la Haute-Garonne, qui sont généreux puisqu'ils renvoient en fait à de multiples événements, surtout en dehors de Toulouse et parfois même aux quatre coins de la France. France. Il parle même de certains de vos rendez-vous, dont l'école de prière qui était citée tout à l'heure par Pascal Fournier, située dans le diocèse de Rodez. Quelques rendez-vous seulement donc, qui concernent le diocèse. Il y a donc un PLVTT, c'est du 7 au 11 juillet pour les plus jeunes, sur la Via Tolosa, donc en route vers les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Un stage musique liturgique qui a lieu cet été à Toulouse, dont on a parlé du 19 au 25 juillet, pour tous ceux qui veulent progresser dans le chant, dans la musique et dans la connaissance de la liturgie. Il y a même un camp pour les plus jeunes, un camp d'été jeune et liturgie, c'est du 22 au 27 août, et enfin le pèlerinage diocésain à la fin du mois d'août. Tous ces rendez-vous sont à retrouver sur les sites des diocèses, preuve que les diocèses vous font découvrir du pays et travaillent à nourrir votre été spice, et peut-être aussi la suite de la pandémie de l'année dernière. On a envie de rester près de chez soi et d'être nourri et de grandir dans les liens fraternels. Un grand merci Jeanne Catala de Beaucor pour ce coup de zoom sur le pays du Tarn. À la technique, Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.